Ara Michaza Peuri Zayenu Luri Kewe.
Bonjour, bonjour auditrices et auditeurs de Radio Galère. Juste un tout petit morceau de générique. Et c'est vrai que la musique d'avant était aussi très jolie. On va demander à Majdou ce que c'était. Ben, c'était vraiment chouette. Écoutez, on commence. Donc, on commence. Livres et amis, le 26 octobre 2022. C'est Dominique, c'est aussi Françoise pour les lectures. Et aujourd'hui, retour à Marseille en compagnie d'un roman très étonnant, Banjo. Banjo, c'est le deuxième roman de Claude Maquet. Il a été écrit en 1925-28, édité en tout cas aux États-Unis en 1928. Et oui, ça a été écrit il y a un siècle. Et Claude Maquet, cet écrivain américain qui nous donne aujourd'hui ce roman Banjo, en fait, c'est un écrivain à la vie très romanesque, justement. Un écrivain qui transcrit dans ses livres, dans ses œuvres, bon nombre des expériences de sa vie mouvementée. Claude Maquet, donc, bon, il est sûrement connu de certains d'entre vous. J'ai des amis qui possédaient des livres de lui depuis bien des années, mais moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai véritablement découvert à l'occasion de la projection au Gyptis d'un documentaire, un film documentaire le concernant, réalisé par Mathieu Verdeil. Le film s'appelle Claude Maquet de Harlem à Marseille. Et c'est un documentaire passionnant, plein de vie, plein de musique, qui n'est pas distribué véritablement et qui est donc projeté en projection militante à un certain nombre d'occasions. Ne le manquez pas si vous en avez l'occasion, justement. Donc, le 7 octobre, au Gyptis, le film a été présenté et projeté en présence du réalisateur et d'éditeurs marseillais qui publient son dernier livre, sorti des oubliettes récemment, on va en reparler. En effet, si Claude Maquet a connu une vie d'aventure, ses œuvres n'ont pas eu un cheminement bien tranquille non plus, d'autant que romans et autobiographies se mélangent, de même que se mélangent les titres américains et ceux de leur traduction française. En bref, Claude Maquet est né en Jamaïque en 1889 dans une famille de petits propriétaires. Puis il est allé aux États-Unis avec une bourse d'études en 1912. Il s'est retrouvé à l'université de Charleston, en Caroline du Sud, où il a été complètement scandalisé par le racisme ambiant et par les lois de ségrégation tout à fait donc légales à l'époque. Il a quitté Charleston et il est allé à l'université du Kansas, puis il s'est installé à New York, à Harlem, où il a publié des poèmes et des articles de journaux. Il a travaillé avec pas mal de journaux de New York et il a fait partie du mouvement culturel de la Harlem Renaissance et de groupes d'activistes noirs révolutionnaires. Il était mécontent des positions qu'il jugeait réformistes de ses amis de Harlem et il est parti, il a quitté Harlem, il s'est mis à voyager d'abord vers Londres, puis vers Moscou où il s'est lié brièvement avec Trotsky. Il a continué à vivre d'articles publiés dans la presse anglo-saxonne tout en voyageant et en s'installant brièvement à Berlin, puis à Paris et finalement plus longuement dans le sud de la France. Il a continué à écrire des poèmes, des romans, tout en détruisant beaucoup de ses œuvres quand il n'en était pas satisfait. Il a donc publié aux États-Unis, tout en résidant en France, son premier roman qui s'appelle « Home to Harlem », qui a été traduit soit par « Harlem Ghetto », soit par « Retour à Harlem ». Il y a même eu une traduction de Louis Guillou entre les deux guerres qui s'appelait « Quartier noir ». Et puis, il a publié donc Banjo à la fin des années 20. Et ensuite, pendant les années 30, il a vécu au Maroc, en France, en Jamaïque de nouveau, et finalement encore à Harlem. Et il a publié des écrits autobiographiques alors qu'il était malade, appauvri, et que toutes les années 40, en fait, il a publié des nouvelles, des poèmes, mais des choses qui ont eu moins de retentissement. Il est mort en 1948, un peu oublié, mais ses œuvres, elles, continuent à vivre vraiment. En France, on connaît donc Retour à Harlem, Banjo, peut-être un petit peu moins Banana Bottom, mais aussi Romance in Marseille, et puis ce dont on parlait tout à l'heure, Un sacré bout de chemin, la traduction de A Long Way from Home, qui a été retrouvée dans des archives de Harlem au début des années 2000, qui a été publiée là-bas et ici, puis republiée justement cette année en 2022 aux éditions marseillaises Héliotropisme, avec le soutien toujours actif de notre chère librairie Transit. Alors, si j'ai choisi Banjo, dont le sous-titre est Une histoire sans intrigue, bien que, en effet, ce roman n'est pas véritablement de construction dramaturgique, c'est qu'il nous livre des tableaux tout à fait passionnants des, entre guillemets, mauvais quartiers de Marseille dans les années 20. Alors, ces mauvais quartiers qui semblent à l'époque avoir été appelés la fosse, c'est vraiment ces quartiers de la rive nord du Vieux-Port qui ont disparu en 1942 lorsque les Allemands les ont détruits, enfin l'armée nazie les a détruits. Et ces quartiers donc qui semblent avoir été complètement ces quartiers de la pègre de l'entre-deux-guerres marseillais, avec un petit peu comme dans les films noirs français, des images de marins et de marlous, de bistrots et de bordels, de filles qui traînent dans les rues et de crasse ou de misère presque indescriptible. Donc cette rive du Vieux-Port nommée la Fosse, eh bien c'est le cadre principal avec le port en général, le quartier du Vieux-Port et de la Joliette. C'est donc ces aspects un petit peu oubliés du vieux Marseille que fréquente Banjo, le héros du roman. Donc, il n'y a pas vraiment d'intrigue dans le roman, on l'a dit, il y a surtout des personnages. Et nous allons vous lire des extraits qui tournent autour de ces portraits de Banjo, bien sûr, qui est le personnage principal, mais aussi de ses compagnons également haut en couleur qui l'entoure. Donc au début, on va prendre un portrait de Banjo et de son ami Malty avec un récit qui reprend un petit peu les aventures de Banjo.
La fosse. D'un pas mal assuré, tel un matelot chaloupant sur le pont d'un navire qui roule, Lincoln Agrippa Daily, Banjo pour les intimes, arpentait sur toute sa longueur la magnifique jetée du port de Marseille, un banjo à la main. Ça, c'est un merveilleux boulot, se dit-il, la plus géniale digue dans la mer que j'ai jamais vue. C'était l'après-midi. Banjo avait marché jusqu'au bout de la jetée et s'en retournait vers la Joliette. Il portait une paire d'espadrilles bon marché, bien faites pour le midi, comme en portent les petites gens en Provence. Elles étaient d'une vilaine couleur marron pisseux, que relevaient pourtant ses chaussettes cramoisies. Nouées autour du cou, son foulard jaune, orné d'un motif noir et rouge à chaque extrémité, pendait sur le devant de sa chemise en gros bleu. Soudain, il s'arrêta net à la vue de plusieurs corps noirs qui dégringolaient du fond d'un des nombreux wagons de marchandises sur le quai. Banjo connaissait ce genre de caisse. Il avait circulé en clandestin dans bien des trains en Amérique, mais n'avait jamais rencontré de wagon qui ait une trappe dans le plancher. Ces noirs-là avaient-ils fait eux-mêmes cette ouverture? Il descendit sur le quai pour s'en assurer. Les types secouaient le foin qui restait accroché à leurs vêtements. Ils étaient quatre. Salut, vous autres, dit Banjo. Salut, Friquet, répondit le plus grand des quatre, qui avait juste la taille de Banjo. Bonsoir, Friquet. Ce que je voudrais savoir, c'est si c'est vous autres qui avez fait ce trou au fond de ce wagon. J'ai jamais vu de trou dans le plancher d'un fourgon et j'ai pas mal roulé dans des trains de chez nous, aux States. Peut-être pas. Il y a ici des choses qui ne sont pas comme là-bas et il y a des choses là-bas qui sont pas comme ici. Moi, ce wagon avec un trou dans le fond, il me botte tout à fait. Moi, Malty Avis, je suis le roi de la Manche sur tout ce bord de mer. Mes potes t'ont tapé, eux aussi, Alors si t'as la dent, comme tu le dis, et pas un rond, ce n'est peut-être vrai, ce qui est peut-être vrai, vu que tes lèvres sont blanches comme le ventre d'un poisson. Alors viens avec nous et on mangera là-bas. Et il montra de la main un petit bistrot délabré sur le quai. À nous tous, on a un peu de fric. La Manche a bien donné hier soir. Ça alors, c'est au poil. Hier, je t'ai filé du blé, et aujourd'hui, c'est toi qui me fais croûter, dit Banjo, en se dirigeant avec eux vers le bistrot. Et dire que j'ai même pas souvenir d'un seul de vous quatre. C'est parce que t'étais trop bien fringué et que tu l'as ramené trop avec ta poule pour faire attention à quelqu'un d'autre, fit le plus petit du groupe. Ils avaient tous faim. Ils venaient de dormir et s'étaient réveillés pleins d'appétit. La femme du bistrot déposa devant eux 5 assiettes de soupe de légumes, un grand pain long, puis du bœuf braisé et un gros tas de haricots blancs. Malti commanda 5 chopines de rouge. À table, Banjo fit connaissance avec eux. Le grand gars charpenté, d'un noir luisant, dont la figure ronde et gaie arborait un air satisfait et qui s'était présenté comme Malti Avis, était le chef et le bout en train du groupe. Il s'appelait Buchanan, Malt Avis. Il venait des Antilles anglaises. Malti avait commencé à travailler tout jeune comme mousse à bord d'un chalutier dans la mer des Caraïbes. Plus grand, il s'était engagé sur un cargo et avait fait son premier vrai voyage en allant à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'avait débuté sa carrière de marin. Il n'était jamais rentré au pays. « Mais t'es pas vraiment fauché, » dit Malti en désignant le Banjo, « tant que t'as ce machin-là. » Il n'y en a pas un de nous quatre qui a de quoi tirer un peu de fric de ce patelin où tout s'achète. Banjo caressa son instrument. « Je m'en sépare jamais, mec. C'est plus qu'une poule, c'est plus qu'un copain, c'est moi tout entier. Tu peux pas crever de faim par ici si tu sais jouer un tant soit peu, » dit Ginger de sa voix traînante. « Tu peux ramasser assez de sous pour toi et encore assez pour nous payer 1 litre de rouge. De quoi se rincer le sifflet ?» quand le blé se fait rare sur les quais, simplement en jouant dans les bars de la Joliette et du Centre, autour de la place où on fait la Manche. « On va voir ce que ce patelin va donner, » dit Banjo. « C'est pas seulement une fois ou deux que ce copain fidèle m'a tiré d'affaire quand j'étais sur le sable. Un jour, là-bas à Montréal, j'avais perdu tout mon fric en pariant aux courses. Je suis entré dans une boîte Rupin et j'ai récolté 25 dollars en jouant. Mais le coup le plus fumant, c'était à San Francisco, avec 3 copains qui avaient une guitare, un ukulélé et un tambourin. Bon sang, j'ai vécu dans le trèfle pendant 6 mois. « Tu t'en tireras ici aussi, » dit Malti, « même si ce patelin grouille d'artistes qui font leur numéro dans les cafés. C'est pas souvent que t'en rencontres un qui est foutu de tirer une note capable de te chatouiller un accord dans le système. Joue-nous un morceau, qu'on voit comment ça sonne. » Banjo se mit à jouer « Yes, sir, that's my baby ». Il dit que les gens raffolaient de ce morceau aux États-Unis. Les gars se mirent à fredonner en se balançant. Ce que Bugsy avait prévu arriva. Quelques dockers au repos entrèrent dans le bistrot attirés par la musique. Ils prirent place à la longue table de bois brut en face des noirs, de l'autre côté de la porte. Ils écoutaient en approuvant, buvaient du vin et envoyaient une mare de crachats. Malti commanda encore du vin. Ginger et Bugsy se mirent face à face pour exécuter un vigoureux black bottom, tel qu'ils l'avaient appris des matelots noirs de l'American Export Line. La patronne vint sur le seuil, toute contente, et fit étalage du peu d'anglais qu'elle possédait. « Good piece, you very well play !» Banjo joua encore un morceau, puis il s'arrêta brusquement, se leva et s'étira. « T'as déjà fini ?» dit Malti. « Sûr, c'était juste une petite démonstration de mes talents pour votre plaisir. T'es un bon musicien et un vrai artiste. C'est ça que je suis, un artiste. » Les ouvriers qui regardaient Banjo avec admiration vidèrent leurs verres et s'en allèrent.
Alors, on continue. Banjo était un grand vagabond des bas-fonds. Il était né dans le sud des plantations de coton, mais il avait bourlingué à travers toute l'Amérique. Sa vie était un rêve de vagabondage qu'il poursuivait sans cesse et qu'il réalisait de façon bizarre, jamais complètement, mais jamais sans en tirer quelque satisfaction. Il avait fait tous les métiers dans lesquels l'embauche était facile, docker, porteur, manœuvre d'usine, ouvrier agricole, marin. Il se trouvait au Canada au début de la Grande Guerre et il s'était engagé dans l'armée canadienne. Ça lui avait donné un aperçu de Londres et de Paris. Avant cela, il s'était fait une idée de l'Europe en touchant quelques-uns des grands ports marchands quand il était soutier et costaud, mais jamais il n'était arrivé au grand port par excellence pour tous les marins, c'est-à-dire à Marseille. Par deux fois, il avait fait escale à Gênes et une fois à Barcelone. Mais seuls ceux qui savent la place qu'occupe Marseille dans l'imagination des marins peuvent prendre la mesure de sa déception. Pendant toute sa carrière de matelot, Banjo avait souvent rêvé de ce port de rêve. Et finalement, puisque l'occasion qu'il avait longtemps attendue ne venait pas, il l'avait provoquée. À la démobilisation, on l'avait renvoyé au Canada. De là, il était passé aux États-Unis où il avait occupé divers emplois. Repris par son vieux besoin de changement, alors qu'il travaillait dans une usine, il découvrit un moyen inédit. Il se fit expulser de son pays. Banjo devint un personnage aux yeux des fonctionnaires de l'immigration. Ils aimaient sa présence, sa voix, son parler plein de riche afro-américanisme. On admira aussi le moyen original qu'il avait imaginé pour reprendre son vagabondage. Pour eux, ce n'était qu'une bonne blague, parce que Banjo ne pouvait convaincre aucun Américain, et surtout pas quelqu'un qui connaissait le Sud, qu'il n'était pas un noir du pays. Mais il y avait là quelque chose d'assez singulier pour frapper leur imagination. Blasés comme ils étaient depuis longtemps, sur tous les moyens de déserter un navire et les ruses des passagers clandestins. Les fonctionnaires se moquèrent de Banjo, lui demandant ce qu'il pourrait bien faire en Europe, lui qui ne parlait rien d'autre que le pur Yankee. Pourtant, ils l'expulsèrent, parce qu'ils pensaient que Banjo se tirerait d'affaire n'importe où. Et il trouva un moyen pour gagner un peu d'argent pendant la traversée, et en effet, il partit, et il était plein de confiance dans son avenir quand il signa son engagement à bord d'un caboteur qui devait finir par le débarquer à Marseille. Arrivé là, d'instinct, il dériva vers la fosse et tout naturellement, il y trouva une fille. Elle leur dénicha une chambre. L'âme de Banjo vibrait de se trouver dans ce milieu, au cœur de cette vie dont les remous venaient battre le bâtiment sombre et imposant de la mairie. Sur le quai du port, là où les poissons et les légumes, les filles et les jeunes macs, les chats et les chiens bâtards et mille autres choses se mêlaient, s'aggloméraient en un tourbillon de puanteur et de viscosité. Merveilleuse Marseille, encore plus merveilleuse à ses yeux qu'on ne le lui avait dit. Sans compter, Banjo se donna tout entier, corps et bien, à la fille et à la ville qui l'entourait. Et quand il eut tout dépensé, la fille le quitta. Banjo avait sa façon à lui de découvrir des lieux nouveaux et des nouveautés. Marseille avait la fièvre. Maintenant, ses premiers jours marseillais de fièvre et de folie repassaient en tourbillonnant dans sa tête. Les rues tortueuses à peine éclairées, les maisons grises et humides, serrées les unes contre les autres, et leurs enseignes multicolores et criardes, les guides qui avaient des têtes de roquets et des yeux luisants de rats, les vieilles sorcières debout à l'entrée des bordels. La description continue elle aussi et on rencontre d'autres personnages autour de Banjo. On va en particulier rencontrer un personnage féminin qu'on retrouvera à nombreuses reprises dans le roman, c'est Latna.
Comme il traversait la place aux tapeurs, une voix féminine appela Malti. Ils s'arrêtèrent et la femme vint vers eux. Elle était menue, avec le teint olive, un âge indéfinissable, pas jeune, mais loin d'être vieille, les traits nets, avec une moue d'amour pleine de charme. C'était Latna. « T'es pas encore couchée ?» lui dit Malti. « On a un blessé. » Et il montra la main de Banjo. « Ça saigne, beaucoup ça saigne, dit-elle. J'ai déjà vu toi par ici. » Banjo sourit. « Peut-être que je t'ai vu aussi. »« Je pense pas. Pharmacie pas ouverte maintenant, » dit-elle en réponse à la question de Malti. Puis elle dit à Banjo. « Viens avec moi, je vois ta main demain, je te vois, Malti. Bonne nuit. » Elle emmena Banjo, tandis que Malti les suivait d'un œil étonné et rêveur. Elle revint avec Banjo dans la direction d'où il était venu, mais en passant par le quai du port. Au bout de quelques minutes, ils tournèrent dans l'une des petites rues obscures. Ils entrèrent dans une maison un peu au sud-ouest de la fosse. Sa chambre se trouvait tout en haut, une mansarde singulière et minuscule, la seule à cet étage-là, ouvrant directement sur l'escalier. Il y avait une petite fenêtre à tabatière, pas plus grande que le Saturday Evening Post, qui donnait sur le vieux port, où l'on voyait scintiller les feux des navires. Un châle oriental bon marché servait de couvre-lit. Sur la table, une cuvette, deux petits pots de cosmétiques et des paquets de cigarettes de différentes marques. Elle lava la blessure de Banjo, puis tirant un flacon de lotion d'un panier au pied du lit, elle lui en enduisit le poignet et le banda. Banjo aimait les soins doux et attentifs de cette femme. Il la remercia quand elle eut fini. « Rien du tout, » dit-elle. Il y eut entre eux un petit silence, un peu gêné mais plein de promesses. Puis Banjo dit « Je me demande où je vais pouvoir trouver Malty à cette heure. J'avais pas encore de chambre pour la nuit. » « Tu dors ici, » dit-elle simplement.
Donc, nous avons fait connaissance de Banjo, de Malty, de Latna, et nous allons reparler un petit peu du cadre qui les entoure, qu'on a déjà vu au passage. Le quartier du Vieux-Port exhalait une odeur écœurante de vie dense, mêlée, entassée, tournant dans un cercle de misère suffocante. Et pourtant, tout semblait s'y trouver bien à sa place et s'ajuster tout naturellement. Les bistrots et les boutiques d'amour, les filles et leurs macs, les clochards, les chiens et les chats, chaque élément contribuait d'une façon essentielle et colorée à créer cette chose indéfinissable qu'on appelle une ambiance. Aucun autre décor n'aurait pu mieux convenir aux gars du bord de mer. À croire que tous les laissés-pour-compte de toutes les mers du monde avaient dérivé jusqu'ici pour passer la journée étendue au soleil. Les gars de la bande du port partageaient leur jour entre la jetée et les docks et leur nuit entre la place aux tapeurs et la fosse. Alors la place aux tapeurs, je suis allée voir, c'est la place Victor Gelu. Mais eux l'appellent la place aux tapeurs parce que c'est là que la majorité d'entre eux fait la manche. Et la fosse, comme on l'a vu, c'est donc cette partie du panier, vraiment le long du quai de la mairie, en fait. La plupart des Blancs, surtout les Nordiques blonds, semblaient avoir coulé jusqu'au fond, sans espoir d'en sortir, sous le poids de l'alcool, et rien d'autre ne semblait compter pour eux. Ils étaient sales, pleins de poux, et ils ne montraient aucun désir de se nettoyer. Avec les Noirs, c'était différent. On aurait dit qu'ils prenaient seulement des vacances. Ils pensaient toujours à faire la fête, et s'ils ne semblaient pas avoir été spécialement conçus pour ce cadre, ils ne gâchaient pas le tableau, mais plutôt ajoutaient une tonalité insouciante et généreuse qui en augmentait l'attrait. Ils buvaient du vin pour se mettre en forme et non pour se saouler. Ils lavaient leur corps et leurs vêtements sur l'acheté, et parfois même dépensaient le billet de 10 francs qu'on venait de leur filer pour acheter un pantalon d'occasion. Banjo avait pris pension chez Latna. Sa blessure n'était pas grave, mais elle était douloureuse et elle lui avait donné un peu de fièvre. Latna lui déclara que, quand son poignet lui permettrait de jouer à nouveau, elle l'accompagnerait dans certains bars du quartier où il jouerait de la musique, tandis qu'elle ferait la manche. Banjo avait donc été blessé à la main et guéri. Il peut se remettre à jouer, à poursuivre ses aventures. Le roman, à ce moment-là, révèle encore bien des aspects de la vie des quartiers du port autour de lui, à Marseille. Écoutons à nouveau.
Je suppose que mes doigts peuvent se remettre au boulot maintenant. Il alla chercher son banjo chez Latna. Ils allèrent jouer d'un bistrot à l'autre dans les ruelles situées entre le marché aux poissons et la place aux tapeurs. D'autres se joignirent à eux, deux Sénégalais et quelques Noirs d'Afrique occidentale anglaise, et bientôt le groupe dépassa la douzaine. Leur aspect pittoresque attirait les regards, tandis qu'ils déambulaient en parlant un mélange confus d'anglais, de français et de langues africaines. Et dans les cafés, la quantité de bouteilles qu'ils commandaient et vidaient sans paraître faire la différence entre le vin et la bière, augmentait avec leur nombre. La musique attirait les clients et aussi les filles qui, jalouses, employaient toutes les ruses pour détacher du groupe le nouveau venu. « Sacré tonnerre !» s'écria Banjo. « Quelle chouette ville pour se donner de la joie !» Banjo avait pris l'Atna comme elle venait, c'est-à-dire facilement. Il lui avait paru tout naturel de retomber sur ses pattes et que l'Atna remplace l'autre fille au moment où il avait besoin d'aide. Ce qui devait arriver, arrivait. Pour lui, l'existence n'était qu'une succession d'événements peu différents l'un de l'autre. Un autre aspect de l'Atna lui fut soudain révélé et il la vit plus nettement, mais différente de l'étrange créature aux gestes vifs et au corps souple qui faisait la manche sur les bateaux et lui apportait en cadeau des cigarettes de luxe. Elle était différente des femmes de sa race à lui. Elle avait un autre rire, plus calme, plus subtil. Le rire des femmes de sa race retentissait comme un coup de tonnerre, et leur démarche, le mouvement de leurs hanches, faisait songer à de splendides et vigoureux quadrupèdes. L'Atna, elle, ondulait comme un serpent qui glisse, mais elle éveillait en lui un désir d'une douceur puissante et étrange. Elle lui rappelait les coulisses venues de l'Inde, qu'il avait connues dans son île des Antilles, quand il était enfant. C'étaient des travailleurs immigrés engagés à terme pour cultiver la grande plantation sucrière qui bordait son village côtier. La nouveauté de ces étrangers ne cessait pas de fasciner le village. Les hommes, avec leurs turbans et leurs pagnes, que les gens du village appelaient des cache-coulis. Les femmes, chargées de lourds bracelets d'argent qu'elles portaient aux poignets et aux chevilles, leurs longues chevelures luisantes à demi dissimulées par l'étoffe que les gens du coin appelaient du rouge-coulis. Peut-être avait-il, sans le savoir, incité les Noirs à conserver ce goût des couleurs vives et des ornements que les missionnaires protestants s'appliquaient à faire disparaître. Il se souvenait aussi d'une petite Indienne qui avait été dans sa classe à l'école primaire pendant un certain temps. Sa peau était douce comme du velours et sombre comme de l'acajou. C'était l'élève la plus intelligente de la classe, mais elle ne parlait guère, ne riait pas et demeurait un mystère. Il ne l'avait jamais oublié. Ayant déjeuné, Malti et Banjo prirent le pont transbordeur pour aller sur les quais de l'autre côté du port. Les gars se mirent torse nu et lavèrent d'abord leurs chemises. Bugsy descendit entre deux blocs de ciment et rapporta une boîte en fer blanc contenant un morceau de savon blanc qu'il y avait caché. Leur lessive faite, ils étendirent leurs vêtements sur les blocs de pierre. Le soleil brûlant à la verticale aurait vite fait de les sécher de ses rayons. Malti proposa de nager. La bande plongeait souvent le long des quais, leurs caleçons servant de costume de bain. Et parfois, quand ils avaient l'extrémité de la jetée à eux seuls, ils se baignaient tout nus. C'est ce qu'ils firent cette fois-ci, demandant à Dingle de faire le guet. L'Atna entra, elle aussi, dans l'eau. Malti était le meilleur nageur. Il nageait le crawl en longue brassée. C'était aussi un excellent plongeur. Pendant son enfance aux Antilles, il plongeait de la rambarde des navires pour rapporter les pièces de monnaie que les touristes lançaient dans la mer. Quand il racontait ses histoires sur la vie dans les ports des Antilles, Kingston, Santiago de Cuba, Port of Spain, il décrivait la façon dont il gagnait quelques dollars en rivalisant avec d'autres petits plongeurs. Comment il luttait sous l'eau avec un gosse tandis que la pièce descendait en tournoyant, s'éloignant d'eux. Il disait comment le plus habile l'attrapait ou comment il la perdait tous les deux quand il ne pouvait pas rester assez longtemps sous l'eau et devait remonter hors d'haleine, soufflant une multitude de petites bulles. L'Atna plongeait à merveille et glissait dans l'eau comme un serpent. Malti en sentait un frisson lui courir dans les veines. Il n'avait jamais imaginé que le corps de cette fille puisse être aussi beau, aussi souple et aussi musclé. Il plongea pour passer au-dessous d'elle et s'amusa à lui saisir les pieds. Elle lui donna un coup de talon sur les lèvres et ce fut pour lui le choc d'un baiser, conquis de haute lutte et dérobé, qui inonda soudain tout son être d'une chaleur douce et délicieuse. L'Atna s'éloigna à la nage et se hissa sur un bloc en faisant des bonds de gazelle. Malti et Banjo nageaient vers elle, se lançant des défis et soulevant des gerbes d'eau, lorsque Dingle s'écria « Attention, la police !» Son œil perçant d'indigène avait aperçu à l'autre bout de la jetée deux agents à bicyclette qui venaient vers eux. Les nageurs se rhabillèrent en vitesse. Quelques instants après, les policiers étaient là. Ils jetèrent pour la forme un coup d'œil sur les baigneurs à moitié vêtus, firent demi-tour sans descendre de vélo et s'en allèrent. « Ces salauds, » fit Dingle. « On les a toujours sur le dos, mais ils ont peur de s'attaquer aux vrais malfrats. » La bande passa le reste de l'après-midi à se chauffer au soleil sur la jetée. Quand la fraîcheur vint, ils retournèrent à la place de la Joliette. Là, chacun partit de son côté pour chercher à manger.
Voilà, c'était les premiers portraits donc on a vu de Banjo, de Malti, de Latna, de ceux qui les accompagnent. De temps en temps, un petit peu de musique, de temps en temps, un petit peu de noirceur des quartiers de la fosse. Et on va passer justement un petit peu de musique, de la musique de 1925, jouée par Papa Charlie Jackson. Attention, ça grince, ça date vraiment de 1925, et après on parlera un petit peu plus de la musique de banjo à Marseille. Eh oui, Shake That Thing. Alors, Shake That Thing, c'était un grand succès de l'époque. C'est une chanson qui a été interprétée par beaucoup de musiciens. Et en fait, là, comme je vous avais donné une version chantée et accompagnée au banjo qui était vraiment vieille, c'était peut-être pas toujours très distinct. Mais vous verrez, enfin, je pense que tout à l'heure, on aura le temps de mettre une version qui, comme on dit, qui balance un peu plus, avec plus de cuivre dans le style Nouvelle-Orléans. Mais on va justement parler maintenant davantage de la musique et de la danse que Banjo pratique et qui lui permet de rassembler autour de lui d'autres Afro-Américains ou d'autres Africains et de nous faire partager cette espèce de culture de musique et de danse qui se pratique dans pas mal de boîtes à Marseille à l'époque. Donc, retournons au texte du roman.
Shake That Thing. L'ouverture du café africain par un Sénégalais avait été l'occasion pour tous les gars au teint sombre qui aimaient s'amuser de se rassembler pour secouer ça, c'est-à-dire danser. Jamais les gorges noires n'avaient lampé une telle quantité de vin rouge et de vin blanc, et jamais les nègres de Marseille ne s'étaient ainsi entassés et mêlés pour un pareil jazz. De fait, la population nègre ou négroïde de la ville se divisait en groupes bien distincts. Les Martiniquais et les Guadeloupéens, qui se considérant comme la fine fleur de tous les noirs de Marianne, se comportent comme une petite aristocratie. Ceux de Madagascar et leurs cousins des îles minuscules qui entourent la grande île, ainsi que les Noirs d'Afrique du Nord, pour qui les Arabes de pure race n'ont que du mépris, se situent quelque part entre les Martiniquais et les Sénégalais, que l'on considère comme des sauvages. Sénégalais est le terme géographiquement inexact, employé en général pour désigner tout Noir provenant d'une partie ou de l'autre de l'Afrique occidentale française. Le magicien qui avait rassemblé les Noirs de toute teinte et de toute catégorie, c'était l'argent. Un Sénégalais émigré aux États-Unis en était revenu, au bout de quelques années, avec quelques milliers de dollars. Il avait acheté un café sur le quai. C'était un grand café, le premier dont un Noir soit devenu le propriétaire dans la ville. Le petit groupe de Sénégalais, élégamment vêtus, qui se tenait au bar, montrait un orgueil courtois, et tous les gars en bleu, venus des docks et des bateaux, manifestaient bruyamment leur joie de pouvoir se divertir dans un endroit aussi spacieux. Il y avait là des Noirs de toutes les nuances de peau. Les mulâtres eux-mêmes avaient daigné descendre de leur piédestal et se mêler à cette foule. Car pas plus qu'aux Antilles britanniques et qu'en Afrique du Sud, les mulâtres des colonies françaises ne se mélangent ordinairement avec les nègres. Mais un magicien les avait tous rassemblés pour secouer ça et lamper du vin rouge, du vin blanc, du vin doux. Et aussi les Noirs d'Afrique occidentale anglaise, les Noirs du Portugal et d'Amérique, tous ceux que leur dérive avait amenés dans ce port où passe le monde entier. C'était un véritable événement et il avait procuré à Banjo une satisfaction sans pareille. Il ne l'avait pas manqué, car il ne manquait jamais une riche occasion qui passait à sa portée dans l'existence qu'il s'était choisie. On jouait de la musique dans ce bar et Banjo en avait profité. Il avait lié connaissance avec le patron qui bavardait souvent avec lui. Tout fier de parler anglais, il aimait en faire étalage quand un client qui lui paraissait distingué entrait dans le café. Shake That Thing était la version de Jelly Roll Blues dont Banjo raffolait et qu'il jouait sans cesse. Et les Sénégalais adoraient danser sur cet air. Quand il jouait ce morceau, on offrait à Banjo tout son soul de vin rouge et de vin blanc, et lui, il ne pensait jamais à passer le chapeau. Latna était entrée une fois dans le café pour faire la quête avec son petit plateau de jade. Elle avait récolté quelques sous, mais n'était pas revenue. Elle aimait Banjo, mais ne pouvait pas se faire à l'ambiance exclusivement nègre de ce bar. Banjo fut content qu'elle ne revienne pas. Ça ne lui semblait pas convenable de demander des sous à un tas de types comme lui. Il préférait jouer pour eux et se faire offrir des tournées. Les sous? Comment aurait-il pu prendre en considération quelques sous, lui qui avait flambé un paquet de dollars? Et pourquoi s'en faire puisqu'il avait le lit gratis, l'amour gratis et le vin gratis? Le projet de monter un orchestre s'empara alors de son imagination. Peut-être pourrait-il prendre le café africain comme base pour réunir quelques musiciens. Malti était un guitariste superbe, mais n'avait pas d'instrument. Si le patron sénégalais avait un peu de cervelle, il pourrait payer une guitare à Malti et il démarrerait un petit orchestre qui serait la spécialité du bar et ferait sa popularité. Bien des grandes choses avaient commencé aussi petitement. Qu'on lui donne seulement une chance et il forcerait cette foutue ville à prêter une oreille attentive, il lui apprendrait ce que c'était que le vrai sport et le grand jeu. Et voilà qu'un après-midi, il entra en plein dans son rêve. Un cargo était arrivé à quai, dont l'équipage de couleurs savait jouer de la musique. Quatre gars, avec un banjo, un ukulélé, une mandoline, une guitare et un cornet à piston. Ce soir-là, Banjo et Malti fous d'enthousiasme, portèrent littéralement le petit orchestre jusqu'au Vieux-Port. Ce fut la soirée la plus fameuse qu'ait connue le café sénégalais. Ils jouèrent quelques airs entraînants à la mode, mais les Sénégalais réclamaient « Shake that thing » en criant à tue-tête. Banjo se mit donc à égrener les notes de ce morceau et les gars du bateau les apprirent bien vite. Alors Banjo se lança et se mit à jouer à sa manière, folle et merveilleuse à la fois. « Old Uncle Jack, the Jelly Roll King, just got back from shaking that thing. He can shake that thing, he can shake that thing, for he's a Jelly Roll King. » Oh, shake that thing.
Shake that thing.
Le banjo domine les autres instruments. Le joli son charmant du ukulélé, les notes en filigrane de la mandoline, la sensualité colorée de la guitare. Et sur le visage de banjo, on peut lire que c'est son instrument qui domine. Les noirs et les hispaniques à peau brune, des Antilles toujours chaudes, toujours vertes et toujours fleuries, peuvent préférer les riches accords de la guitare. Mais le banjo est l'instrument privilégié du noir américain. Les notes nettes et sonores du banjo font partie de la musique bruyante de leur vie. Elles représentent une affirmation de leur existence vivace au sein de la civilisation la plus grande et la plus tumultueuse du monde moderne. Chante banjo, joue banjo, me voilà patron, je marque le pas, je garde le pas, je reste en mesure avec vous de quelque façon. Ohé banjo, joue-moi ça, secoue-moi ça. Old brother Moses is sick in bed. Doctor says he is almost dead. From shaking that thing, he was a jelly roll king. Oh, shake that thing.
Shake that thing.
Quand ils entrèrent, un Sénégalais qui avait dansé au son de leur musique voluptueuse au café africain s'exclama : Les voilà ! Maintenant, c'est de la vraie musique qu'on va entendre, quelque chose de formidable. Et il demanda à Banjo de jouer Jelly Roll. L'un des soldats faisait manifestement la tournée des bas-fonds. Il y avait dans son uniforme et ses chaussures une élégance distinguée qui le différenciait des dandys ambigus du service militaire, qui étaient les habitués des bars louches. Ses traits et ses manières trahissaient sa classe. Il offrit une tournée à Banjo et à ses camarades et dit dans un anglais laborieux « Jouez, s'il vous plaît. Vous, Américains, j'aime beaucoup les nègres jouer le jazz américain. Je les entends à Paris, épatant. » Banjo sourit et vida son verre de Cap Corse. « D'accord, les gars, jouons-leur d'abord un morceau que vous savez. Et puis, on le reprendra, » dit le joueur de mandoline. « Shake that thing, ce jelly roll. » Secouez-moi ça au rythme de la puissante musique de la vie, jouée pour la ronde primitive de la vie. Rythme brusque de la chair sombre de la vie, flux vigoureux des courants profonds que l'on force à entrer dans des canaux sans profondeur. Jouez-moi ça, l'un des mille mouvements de la vie qui coule éternellement. Secouez-moi ça, comme un défi lancé à l'ombre de la mort. Main traîtresse de la mort assassine, aux aguets dans les venelles sinistres, où les ombres de la vie dansent pourtant sur la musique de la vie. Là-bas la mort, ici la vie. Secouez-moi la mort et oubliez dans une grande orgie de danse son commerce, ses desseins, sa présence qui vous hante. Tuez la mort de nos jours en dansant. Tuez la mort de nos mœurs en secouant ça. Jazz de la jungle, ondulation de l'Orient, pas mesuré de la civilisation. Secouez-moi ça. Douce danse de la joie primitive, plaisir pervers. Prostitution des manières, variation multicolore du rythme, sauvage, barbare, raffiné, rythme éternel du mystère de la magie, de la splendeur, danse divine de la vie. Oh, shake that thing.
Donc, avec ces portraits de danseurs et de musiciens, on a découvert l'univers coloré et l'univers sonore de boîtes de danse, de boîtes de musique qui sont sur les quais de Marseille à cette époque-là. C'est vrai que, comme dans le film d'ailleurs, hein, le film qui concerne, enfin qui s'appelle Claude McKay de Harlem à Marseille, comme dans le film qui présente une mosaïque de portraits, on retrouve donc des extraits de musique un peu sans arrêt. Dans le livre, de la même façon, on a des portraits qui s'accumulent et en particulier, à nouveau, un portrait de marin qui débarque Mais on n'est pas complètement sûr que c'est un marin. On sait juste qu'il débarque d'un bateau et qu'il fait connaissance avec Banjo. Donc, à nouveau, Claude McKay nous fait un portrait d'un nouvel arrivant qui entre en relation avec Banjo et qui va raconter son histoire. C'est de nouveau l'occasion de faire un petit peu ce portrait de personnes, de marins et autres, qui débarquent à Marseille avec chacun ou chacune leur histoire. Ça s'appelle « Le jeune homme à la flûte ». Un jeune homme à la peau couleur de pomme cuite se tenait sur la place des tapeurs dans une pose pleine de nonchalance, une flûte à la main, le visage rayonnant d'un sourire de béatitude. Banjo, qui passait avec Ray, l'aperçut et constata « C'est un pays, je suis sûr. »« Tu crois ?» répondit Ray. « Sûr et certain, vise un peu la pose qu'il prend. Il vient de Caroline du Sud. Aussi vrai que le corn pone vient de Dixie. » Vois comment on va faire connaissance. Allez. Salut, pays. Salut, toi. T'arrives juste, dit Banjo. T'as un air heureux d'alléluia comme un type qui vient de faire fortune. Haha, la fortune, tu peux en parler. Je viens de me faire débarrasser de tout ce que j'avais, dit le gars à la flûte. Et il retourna les poches de son pantalon. Tu veux dire qu'on t'en a bien débarrassé, dit Banjo en riant. Le gars raconta son histoire. Il avait de belles dents blanches, de belles gencives bien rouges qu'il découvrait avec complaisance. Il conta ses aventures depuis son arrivée sur les quais jusqu'à la fosse. Il y mit tout son cœur, comme beaucoup de gars de couleur avant lui. Il commença par expliquer qu'il avait quitté son bateau à la suite d'une dispute avec son officier. Le bateau était du genre de celui qui avait amené Banjo ici, l'un des rares cargos américains qui font du cabotage autour du monde et font de temps à autre escale à Marseille. En fait, l'équipe de la Combuse était noire, le garçon de la flûte étant le seul à avoir la peau un peu plus claire. Il y avait parmi eux d'autres noirs d'Afrique, un autre nommé Taloufa, des immigrants expulsés aussi, enfin bon, tout un groupe. Le gars à la flûte et Taloufa étaient très copains, mais par contre, ils ne s'entendaient pas du tout avec les autres. Taloufa, il avait fréquenté l'école dans une île des colonies britanniques, et il avait été donc jusqu'au bac, quoi, enfin jusqu'au secondaire, dans l'école de la mission. Le garçon à la flûte, lui, il était né dans le sud profond, mais comme sa famille avait émigré dans le New Jersey quand il était tout gosse, lui aussi, il était allé en classe et il avait décroché un diplôme de fin d'études. Donc les deux, Taloufa et le gars à la flûte, bah, ils avaient une petite culture, une petite connaissance du monde, et ils avaient décidé de naviguer sur des caboteurs entre New York, la Nouvelle-Angleterre, le Sud et bientôt l'Europe. Au collège, ils avaient même un peu appris de français et ils étaient enchantés de se retrouver à Marseille. Comme ils ne s'entendaient pas avec l'équipe de la Combuse, ils avaient décidé de débarquer. Ils voulaient tout connaître de la ville, mais le bateau ne relâchait que 3 jours. Alors, ils avaient décidé de se faire lourder. Ils s'étaient enguirlandés avec les gars de l'équipe et, à cause de leur conduite, le capitaine avait ramené les deux garçons au consulat des États-Unis. Et en fait, il n'avait pas eu l'autorisation de les renvoyer. Le consul ne veut pas avoir trop de marins qui glandent dans ce patelin. Un patelin qui est si accueillant. C'est ce qu'avait dit Banjo en écoutant ses copains. « Tu parles qu'il y tient pas », avait répondu le gars à la flûte. « Il a ordonné au capitaine de me ramener à bord et m'a conseillé de faire gaffe. Moi, j'ai dit que je préférais être congédié, mais il m'a dit « Pour rien au monde, mon garçon, tu ne restes à Marseille ». Tu vas retourner chez toi, cultiver tes patates douces et tes pastèques. Je voudrais bien moi-même être au pays et de temps en temps manger un peu de cette bonne cuisine des États-Unis. Et pour rire, il prenait l'accent nègre, il se moquait de moi, il parlait comme un nègre. Enfin bon, je suis revenu à bord, dit le garçon à la flûte. J'ai été assigné au mess de l'équipage. Mais avant même qu'on m'ait demandé de faire d'autres choses, je m'étais déjà disputée avec les préposés. Alors, tant pis, je veux quitter ce bateau et je m'en vais. Alors voilà, le gars à la flûte et Taloufa s'étaient retrouvés sur le quai. Ils étaient un peu retournés le lendemain chercher leur paye. Ils avaient gagné évidemment quelques dollars. Ils avaient pris une chambre dans un hôtel à la Joliette et ensuite ils s'étaient rendus tout droit à la fosse. C'est le garçon à la flûte qui reprend la parole. Il a flâné, fasciné, dans ce merveilleux marché aux poissons sur la place. Tu nous fais le marché aux poissons ? Jusque par là.
Il flâna dans le merveilleux marché aux poissons sur la place. Poissons de toutes les couleurs, rouge, bleu, argent, or, émeraude, topaze, améthyste, brun foncé, gris acier. Poissons rayés à écailles, à gros ventre, et chiens et chats se disputant la ventraille des poissons en grondant et en crachant. Quel grand centre poissonnier, Marseille ! Et c'est là le grand marché central où les petits marchés, les boutiques et les bistrots qui empuantissent la ville viennent faire provision pour la nourriture, les loteries de foire et tout le reste. De ces créatures à sang froid, au corps glissant et couvert d'écailles. Il y a la pêche du jour dans la baie et les poissons provenant d'autres ports. Les pêcheurs avançaient pesamment dans leurs bottes de feutre. Les marchandes de poissons s'installaient en se carrant de toute leur largeur derrière leur étal. Et en jupe aux couleurs vives, grosses chaussettes mauves et sabots de bois qui claquaient sur le pavé, les mareyeuses marchaient avec grâce et aisance, portant leurs paniers à deux gaillardes, attirantes et belles dans ce cadre comme des nénuphars luxuriants à la surface d'un étang. Les denrées des épiciers qui se pressaient autour du marché aux poissons étaient étalées sur le trottoir. Piles de fromage, mottes de beurre, poissons séchés, harengs sort, choucroute, jambon, saucisson, porc salé, riz, farine, haricots, ail. Des chiens sans maître venaient humer les caisses. Des chats rôdaient. L'un d'eux, au poil noir et luisant, bondit sur un baril d'olive verte et le renifla en faisant le gros dos. Un petit garçon lui saisit la queue en riant. Et le chat sauta à terre et fila comme une flèche dans l'entrée voisine. Une femme enceinte prit une olive, fit claquer sa langue d'un air satisfait et cria au jeune vendeur de lui en mettre 100 grammes. Le garçon à la flûte se promenait parmi cet entassement de gens, d'animaux, domestiques et de denrées. Son aspect attirait l'attention même au milieu de cette activité ruisselante d'humidité. Un jeune poissonnier en bleu de travail le repéra de son œil attentif. Il connaissait juste la poignée de mots d'anglais nécessaires pour appâter le client, mais le gars à la flûte répondit en français, tout fier d'employer ce qu'il avait appris au collège. « Tu parles très bien français, » dit le petit poissonnier. « Vraiment ? Mais oui, tu as un bon accent, camarade. » L'autre se sentit fier comme un paon. Il se trouvait à deux pas de Boody Lane, qui allait jusqu'au marché aux poissons. Une fille, fardée et déjà âgée, portant un poisson à la main, fit exprès de les bousculer et s'engagea dans la ruelle en se déhanchant d'un air triste.
Donc c'était la rencontre du joueur de flûte et de sa description du marché aux poissons. En fait, il se fait attirer dans un bouge, il se fait, comme il l'a dit à Banjo, confisquer tout son argent. Et le portrait ou la scène plutôt vaut justement son pesant de cacahuètes. Donc on va quand même vous en faire une lecture. Quand le garçon à la flûte entra dans le bar, il commanda une bière pour lui et une autre pour son guide. La femme qui les servit demanda une petite bouteille de boisson gazeuse. Et toutes les vieilles putains de l'endroit voulurent boire la même chose. Le gars pensa que ça devait coûter moins cher que la bière et leur dit en souriant « Allez-y !» Mais quand il voulut partir, on lui apporta une addition de 475 francs. Il s'écria qu'il ne paierait pas, c'était bien trop cher. La tenancière lui montra la liste des prix. Cette boisson gazeuse coûtait 40 francs la bouteille, 10 fois le prix d'une bière. Le gars déclara qu'il n'avait pas de quoi payer. On essaya de s'emparer de son portefeuille, mais il les empêcha d'ouvrir sa poche. On appela la police. Les deux agents qu'il avait aperçus dans la rue arrivèrent et déclarèrent qu'il devait payer. S'il n'était pas content, il pourrait ensuite, mais ensuite seulement, porter plainte au commissariat. Il leur montra son portefeuille qui ne contenait que 350 francs. La patronne les prit et lui dit de revenir avec le reste quand il aurait de l'argent. Les agents le laissèrent partir et l'un d'eux échangea, en s'éloignant, un clin d'œil de connivence avec la patronne. Voilà, c'est le je sais pas comment on appelle ça, le racket organisé des étrangers qui débarquent. Tu sais jouer de la flûte ? Lui dit Banjo. Oui, bien sûr. Si tu joues vraiment bien, je peux te prendre dans mon orchestre.
Comment ça ?
Eh bien voilà. Et Banjo lui expliqua son intention de former un orchestre. S'il y avait une chose dont il était certain à propos de cette ville, c'est que les gens aimaient la musique. Dans toute la fosse, on n'entendait que de la musique minable. Alors, eux, s'ils pouvaient réunir un orchestre qui jouerait de la bonne musique, ils étaient assurés du succès, comme en face, sur l'autre rive. Mais il était difficile de trouver des musiciens. Alors, le banjo, j'en joue.
Bien sûr.
Mais le banjo, il y a des musiciens qui ne veulent pas jouer avec moi, parce que le banjo, c'était l'esclavage. L'instrument des dégriers, c'était le banjo du Dixie, le banjo des plantations de coton. Les autres musiciens, souvent, ils disent « jouons du piano, du violon, de la harpe ou comme toi, de la flûte ». Les blancs jouent du banjo s'ils veulent continuer à garder le souvenir de tous les bons nègres qui chantaient et de l'enfer dans lequel ils les faisaient vivre. « Moi, de tout ça, je m'en fiche, » dit Banjo. « Je joue de cet instrument-là parce que j'aime ça. » Et je voudrais vraiment continuer à en jouer, et en jouer avec d'autres, de jouer du banjo comme du jazz, avec un saxo, avec d'autres instruments en cuivre. Et donc, on va maintenant presque se quitter, sachant que Banjo continue son aventure à Marseille. Banjo, c'est à la fois l'homme et l'instrument. Et là, on va les retrouver, mais on va les retrouver comme il le propose à la fin de notre extrait, avec un vrai orchestre Dixie, beaucoup de cuivre, et vous allez voir Shake That Thing. À bientôt!
Shook that thing. Well, I'm sick and tired telling you how to shake.